Alors justement, vis-à-vis de ce verset, je l'interprétais d'une façon, je ne sais pas, justement, on est là pour partager. Dans Proverbe 31, je voyais comme dans cette femme vertueuse, la femme qui gère les biens, en fait, puisqu'elle vend, elle achète, on voit qu'elle prend des initiatives pour gérer certaines choses. Alors, il me semblait, je ne sais pas, que l'homme pouvait justement apporter les biens à la maison, c'est-à-dire c'est lui qui travaille. Il faut pas en déduire qu'il n'y a que l'homme qui travaille. Mais c'est lui qui travaille et que la femme, elle est là aussi pour gérer certaines choses. Elle est l'aide dans la gestion aussi du foyer. Voilà, c'est une pensée que d'autres s'expriment.
Qu'elle puisse aider à la gestion, c'est évident, mais quand même, le verset 16 est là. Elle pense à un champ, donc elle a en tête un terrain. Apparemment, elle en parle à son mari, j'en sais rien, c'est pas dit clairement, en tout cas. Elle l'acquiert, donc c'est elle qui fait la démarche. Et du fruit de ses mains, elle plante une vigne. Alors bon, on peut évidemment spiritualiser tout ça et puis donner une interprétation un peu comme faisait ce père de l'Église Origène, qui était très fort pour ça, de faire des allégories partout, mais moi je lis le texte tel qu'il est, point de départ, dans sa réalité quotidienne. Donc on voit qu'elle a un peu une activité, je ne sais pas moi, de quelqu'un qui gestionnaire agricole, pas seulement, elle met la main à la pâte.
Il y a le verset de Tite qui a impondéré ce texte. Tite 2, dans verset 4, les femmes âgées instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, verset 5, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, occupées des soins de la maison, bonnes, soumises à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà aussi un programme qui est donné comme canevas d'enseignement par Paul.
On peut dire de la liste de Tite 2, c'est qu'elle donne sans doute des choses prioritaires, mais non limitatives. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu de faire autre chose. En revanche, il est sûr que si une sœur qui a une famille nombreuse se mettait à abandonner son mari et ses enfants pour faire de l'aide humanitaire, ça pourrait poser des problèmes. Mais je prends un exemple caricatural. Donc on peut penser qu'il y a là quelque chose sans doute de prioritaire, mais de non limitatif. On voit tant d'autres passages d'Écriture, Proverbe 31, et puis même dans le Nouveau Testament, il y a place pour bien sûr d'autres activités.
Il y a certainement un équilibre dans tout cela. En pensant au verset de Tite, on comprend très bien qu'effectivement, une femme a déjà son travail qui lui est propre à la maison, qui lui revient. C'est presque évident, n'est-ce pas? Et nous, les maris, on n'est pas toujours capables de faire ce que nos épouses font. Nous en sommes loin. Serait-ce que dans le domaine de la cuisine, même s'il y en a qui sont spécialisés à cela. Et ce qui fait que je crois qu'il faut un équilibre. Et voilà.
Des tâches féminines, est-ce qu'il y a des tâches féminines et des tâches masculines? Physiquement, déjà, l'homme est différent de la femme. L'homme, à lui, est donné plus la force et à la femme d'autres choses. C'est pour ça que, personnellement, je vois des travaux de forçat, je les vois plus à l'homme qu'à la femme.
Quelqu'un sur le bord du trottoir mendier, voir en lui une image de Dieu, pour moi c'est très difficile. Et j'étais arrêté par cette notion, et Dieu le créa, mâle et femelle. Et ce n'est que dans un deuxième temps que Dieu dit, mais je ne vois pas pourquoi l'homme restera seul. Ça me pose un peu problème.
On peut dire qu'en Genèse 1, on a des généralités sur l'ensemble de la création. De Genèse 1 jusqu'au début du Genèse 2. On peut dire qu'ensuite, il y a une reprise qui est détaillée de la relation. Dieu détaille ensuite au chapitre 2 sa relation avec l'humain. C'est pour ça que la phrase « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » n'arrive qu'au verset 18 du chapitre 2. On peut dire que jusqu'au verset 3 du chapitre 2, depuis le chapitre 1 et le verset 3 du chapitre 2, il y a une continuité et qu'ensuite on a plutôt un détail. On peut dire qu'on passe d'une vision un petit peu, si vous voulez, grand angle à une vision un peu plus réduite.
Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez la terre, et la sujettissez. Comme si déjà, il y avait, Ève était déjà arrivée.
Pour Dieu, c'est fait, même si c'est en quelque sorte, si c'est détaillé après. Il crée l'humain à son image, dans l'homme et la femme. Il le créa, l'humain, à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Il les bénit et ensuite, on a le détail. C'est vrai que la chronologie paraît un peu curieuse, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans la Bible. Quant à l'image qui est dégradée, en quelque sorte, chez ceux qui sont les plus bas de l'échelle sociale, ils gardent toujours cette image, comme Jean-Louis l'a dit, de Dieu. Et c'est bien toute l'attitude du Seigneur vis-à-vis de la Samaritaine, vis-à-vis de la femme adultère. C'est l'attitude de Pierre et Jean quand ils montent à l'heure de la prière au temple, qu'ils voient un boiteux, ils se dirigent vers cet homme, ils entament le dialogue avec cet homme. Ils ne fuient pas devant ce qui souvent nous retient ou nous fait tourner la tête. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable.
C'est vrai qu'on a un immense mystère qui est probablement insondable quand on regarde la création. Il y a des frères qui seraient plus capables que moi d'en parler ici. Quand on voit que là, la différenciation sexuée n'est pas quelque chose d'universel dans la création, dans le monde animal en particulier. Ça rejoint un petit peu sans doute le mystère que vous évoquiez. Voilà, c'est ça. Quelque chose qui est véritablement mystérieux, comme si Dieu disait dans le témoignage de la création qu'il donne, si j'avais voulu faire autrement, j'aurais pu faire autrement. Mais je l'ai voulu ainsi. Pour revenir au paragraphe de la Genèse, donc, on a donc des phrases clés, c'est donc le verset 4 de Genèse 2, comme le disait Daniel, le « se sont ici ». Ce qui marque les paragraphes de la Genèse, ce sont les « se sont ici ». « Se sont ici les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés au jour que l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux et tout arbuste, etc. » Donc on revient, Dieu dit bien avec ce « se sont ici » que c'est une rétrospective. Je vais vous donner le détail, comme disait Daniel, je vais vous donner le détail des choses telles que je vous ai présentées dans leur généralité. On a un autre « se sont ici » ou « c'est ici » au chapitre 5 et au verset 1er. « C'est ici le livre des générations d'Adam ». Donc là, c'est ce qui concerne l'homme spécialement en tant qu'homme. Et puis, on trouve après bien d'autres. Genèse 6, verset 9, ce sont ici les générations de Noé. Mais comme Dieu le fait souvent dans l'Écriture, il donne un coup de projecteur général sur une scène, comme un tableau. Après, comme on le fait avec un zoom d'un appareil photographique, on s'approche et on dit, voilà telle scène. Et puis, on regarde encore plus en détail. Mais le mystère reste entier de création de l'homme et de la femme.
Dans le monde animal, comme on l'a dit, donc... Mais Dieu avait quand même créé mâle et femelle, les bêtes, sauf les variétés hermaphrodites qui sont quand même pas très courantes. Et il est vrai qu'aussi, chez l'homme, il y a un problème. Il paraîtrait qu'en France, il y aurait au moins 100 000 personnes qui n'auraient pas une apparence qui corresponde à leur génétique. Autrement dit, le sexe génétique serait féminin et que l'apparence serait masculine. Et vice-versa, dans l'autre sens aussi. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de comprendre tout cela, il y a des choses mystérieuses, mais je pense qu'on est quand même un peu obligé de considérer les choses dans leur ensemble qui ne sont pas des choses anormales. On peut dire des maladies qui touchent la génétique, qui touchent l'identité, sexe, l'identité sexuelle, mais Dieu a quand même fait l'homme à son image et homme et femme, véritablement, génétiquement homme, génétiquement femme. Et puis il y a les exceptions, et puis il y a les maladies, et puis les anomalies.
On incombe souvent la responsabilité du péché à Ève. Est-ce que c'était déjà normal que le serpent soit dans le jardin? Parce qu'il est dit que Adam devait garder le jardin. Et il n'y avait que des plantes dedans. Est-ce que c'était normal déjà que ce serpent soit là? Ce n'est pas une réflexion comme ça. Et après, j'aurai une autre question.
De ce qu'on disait tout à l'heure, un peu des mystères de Dieu. Chose qu'on ne peut pas expliquer. Cette question, ceux qui font ici des cours avec l'Afrique, cette question nous est souvent posée. Mais pourquoi Dieu a permis qu'il y ait dans le jardin d'Éden cet arbre qui allait entraîner le péché? Je ne sais pas. Pas de réponse. Excuse-moi. Pas de réponse. Enfin, en tout cas pour ce qui me concerne. Parce qu'effectivement, on aurait bien pu penser que Dieu, plaçant le jardin d'Éden, il n'avait pas besoin de, permettez-moi l'expression, il n'avait pas besoin de mettre cet arbre de la connaissance du bien et du mal dans un sens, qui risquait d'aller faire pécher l'homme. Mais je crois qu'on est là des choses qui restent sans réponse.
Dieu a créé l'homme à son image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a créé responsable, libre de choix. Et par conséquent, l'arbre était là pour prouver que l'homme était capable de faire des bons choix. Bon, il a fait le mauvais. C'est un fait. Mais s'il n'y avait pas eu cet arbre, s'il n'y avait pas eu cette interdiction, mais nous voyons l'interdiction, nous, parce que maintenant nous avons péché, donc comme quelque chose de négatif. Mais c'est un peu, cette interdiction, c'est un peu comme la barrière qui est au bord du précipice. Vous n'allez pas dire que la barrière, elle est négative. Vous n'allez pas l'accuser. On va dire, oui, la barrière, elle fait bien d'être là, parce que si elle n'est pas là, j'ai peur, ou je risque de tomber. Donc, une interdiction pour Dieu, c'est quelque chose de positif, c'est pour protéger l'homme, c'est pas pour le faire chuter. Mais, comme il est à l'image de Dieu, il est responsable, et il doit prouver sa responsabilité, qu'il est capable d'être un être responsable.